Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Linda Bortoletto rêvait de devenir pilote de chasse. Elle était engagée sur une voie royale, celle de l'armée. Une carrière d'officier supérieur s'ouvrait à elle quand elle a décidé, à 28 ans, de tout plaquer. Son boulot, son grade de capitaine, son mari, ses perspectives pour partir à l'aventure autour du monde, à pied, à vélo, seule, pour mieux aller à la rencontre de l'autre. Avec pour objectif de retrouver sa liberté, ses rêves d'enfance, mais aussi se confronter à elle-même et s'éloigner du pessimisme, du fatalisme qui règne dans nos sociétés. Linda Bortoletto qui distille son optimisme par grande rasade est mon invitée aujourd'hui dans Vie d'aventure. Bonjour Linda.
Bonjour Denis.
Alors, moi je voudrais comprendre pourquoi finalement ton rêve de devenir pilote de chasse n'a pas abouti.
À cette époque, donc, j'étais à l'école des pupilles de l'air, qui est la prépa scientifique pour intégrer l'école des officiers de l'armée de l'air, et donc qui prépare spécifiquement au concours de l'école des officiers de l'armée de l'air. Il y a une sélection physique. Et donc pendant 2 jours, on va chez le médecin. Donc c'est 2 jours où en gros il nous scanne de la tête aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur. En général, ce qui pêche pour devenir pilote de chasse, c'est la vue. Et moi, tout passe. Et sauf qu'à un moment, le médecin me demande de revenir la dernière journée, dernier test avec mes radios du dos. Et c'est là où il me détecte une scoliose d'une vingtaine de degrés. Et du coup, le médecin me dit, écoutez mademoiselle, donc à l'époque j'ai 20 ans. C'est très bien, mais tout est parfait, sauf votre dos, donc je vous déclare inapte au pilotage d'avions de chasse. Et tant qu'à faire, je vous déclare inapte au pilotage d'avions de transport, d'hélicoptères et au parachutisme militaire. Et donc là, j'ai 20 ans, mon premier grand rêve s'effondre, je me mets à pleurer en fait devant le médecin qui lui me dit « Écoutez, c'est pas grave, vous savez, il y a des choses plus graves dans la vie ». Et sauf qu'à cette époque-là, j'étais pas prête à l'entendre. C'était très dur parce que je rêvais de faire ça depuis que j'avais 14 ans. J'ai passé mon brevet de pilote de planeur quand j'avais 16 ans. J'ai commencé à piloter avec mon père quand j'avais 10-11 ans. Donc j'ai toujours baigné dans cet environnement. Alors j'ai quand même intégré l'école des officiers de l'armée de l'air pour devenir officier de renseignement. Sauf que c'était un compromis. Et j'étais trop frustrée de côtoyer au quotidien les personnes qui avaient passé le même concours que moi et qui, elles, allaient réaliser leurs rêves. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'armée de l'air pour ensuite rejoindre l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Alors, tu te retrouves dans la gendarmerie. Et là, c'est vrai, toi qui rêves d'évasion, qui rêvais de piloter des avions au-delà de la vitesse du son, tu te retrouves comme jeune lieutenant à Roubaix. C'est un autre décor et c'est forcément quelque chose qui te fait réfléchir sur la suite de ta vie.
Au départ, j'étais très contente d'avoir fait ce choix-là parce que devenir officier de gendarmerie, et donc j'étais commandant second une compagnie, donc en gros j'étais responsable dès 23 ans à la sortie de l'école de 150 gendarmes répartis en 7 unités. Donc ça me plaisait parce que j'avais ce côté action, ce côté adrénaline, parce que quelque part ce qui me guidait dans mon choix dès le début, c'était aussi me retrouver dans un métier d'action et je voulais absolument pas être dans un bureau, dans une routine. Sauf que, effectivement, j'étais aussi guidée par le voyage, le fait de dépasser les limites, les frontières. Et là, j'étais sur le terrain, j'avais ces responsabilités, sauf que, clairement, je tirais un trait sur ma perspective de voyager. Et donc, c'est là où j'ai commencé à sentir un mal-être. Je savais que j'étais pas à ma place, mais je savais pas finalement où aller. Et j'étais vraiment lancée sur ces rails, qu'une carrière militaire, quand même, c'est très cadré. Et puis, j'étais hyper rationnelle, hyper cartésienne, de formation scientifique et militaire. Donc du coup, j'écoutais absolument pas mes émotions et je me posais pas de questions. Donc je fonçais. C'était ma carrière, grande réussite sociale. En plus, je m'étais mariée. Entre-temps, mon mari était également officier. Donc bon, bref, sur le papier, tout était carré, quoi.
Tout était beau jusqu'au moment où on te mute au ministère des Finances à Bercy. Alors là, c'est la carrière cadrée par excellence. On ne peut pas trouver plus rationnel. D'un seul coup, tu dis « J'avais fait une croix sur la liberté ». C'est très fort, cette phrase.
Ouais, c'est très fort et ça reflète à quel point ça a été très dur. Alors encore une fois, sur le papier, c'était un très beau poste. Je passe capitaine à l'âge de 27 ans, je demande plein de postes à l'étranger, je me retrouve au ministère des Finances à Bercy à m'occuper de politique, alors qu'à la base, ben voilà, moi j'étais quelqu'un d'action, du terrain, dans un bureau, donc un poste administratif. Et là, je me demande, mais qu'est-ce que je fous là, clairement ? Et j'ai vraiment eu, à cette époque, cette sensation d'être enfermée, d'être comme un oiseau en cage. Sauf que, encore une fois, j'étais prise dans ces normes de la société, du système, qui fait que, bah, quelque part, pourquoi j'allais me plaindre ? J'avais tout. J'avais la réussite sociale, la reconnaissance de mes pères, de mes chefs. J'étais mariée. Donc, pourquoi changer ?
Donc, Linda, il y a aussi un moment charnière, à 28 ans, c'est la mort de ton père. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, c'est plus possible, il faut que je prenne un virage à 180 degrés dans ma vie.
Ouais, là, ça a été vraiment la prise de conscience. C'est-à-dire que donc pendant ces années où je me posais pas de questions, où je refusais de m'écouter, d'écouter cette frustration, le fait que j'étais pas à ma place, hein, quand mon père meurt, je me rends compte que la vie, elle peut basculer du jour au lendemain. Je suis face à la souffrance et du coup, je suis face aussi à ma propre souffrance et au fait que si je veux vivre ma vie, c'est aujourd'hui et pas demain. Et donc là, je fais un peu le bilan de là où je suis et je me rends compte que la femme que je suis devenue, je ne la connais pas, c'est-à-dire que je me suis complètement aliénée. Je suis devenue une sorte de super machine du système qui réussissait, qui faisait tout bien. J'étais fonceuse, quoi, avec cette sorte de perfectionnisme au plan professionnel, mais également au plan personnel. Et là, je me dis, mais ça sert plus à rien. Et le pire, c'est que c'est mon corps qui me l'a dit. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je suis dans cette période, après la mort de mon père, où je prends conscience de tout ça, j'ai vraiment la sensation d'étouffer, où je ne peux plus respirer. Je me suis un peu délaissée physiquement, je faisais beaucoup moins de sport qu'avant, et là je me dis, faut que je me reprenne en main. Donc j'ai commencé à courir beaucoup, à refaire beaucoup de sport, à me recentrer sur moi, et petit à petit, en fait, plus les mois passaient, plus je me retrouvais, et en fait, à un moment, je me suis posé la question, qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi t'en es arrivée là ? Pourquoi finalement t'as dérivé ? Et en fait, je suis revenue à mes premiers rêves, qui sont ces rêves d'aventure, ces rêves de liberté, ces rêves d'action, ce rêve de dépassement. Et c'est à partir de là où j'ai décidé de tout quitter.
Le château de cartes s'écroule, Linda, à ce moment-là.
Oui, complètement. C'est un effondrement. C'est un effondrement intérieur avant tout. C'est-à-dire que je perds tous mes repères. Parce que, pour des raisons sans doute inconscientes, j'ai pris une voie qui ne me correspondait pas. J'ai pris la voie qui faisait bien sur le papier, mais qui n'était pas la mienne. Et donc, à partir de ce moment-là, certes, le château de cartes, il s'effondre, mais comment on se reconstruit ? Et c'est là que je me suis dit, il n'y a que moi qui suis capable de me reconstruire. Et c'est là que j'ai découvert la force et la puissance du désir et de la volonté.
Et là, tu bazardes tout. Hein. Tu bazardes ta carrière militaire, ta carrière dans la gendarmerie, ton mari. tout part en même temps. Tout part avec l'eau du bain, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui, c'est vrai que j'ai un côté que j'ai toujours, j'ai un côté très radical dans mes décisions. J'avais cette évidence, j'avais une évidence, je ne savais pas où j'allais, mais j'avais la certitude de ne pas être à ma place, que ce soit au plan professionnel ou au plan personnel. Donc en fait, ça a été, je divorce, je démissionne, je me recentre sur mes premiers rêves, donc ces rêves de voyage et d'aventure, et je pars. Et qu'importe ce qu'il adviendra demain, je sais que je ne pourrai pas être en plus grande souffrance que là où je me trouvais.
Comment ont réagi tes proches, Linda ?
Alors, pour ma mère, ça a été très compliqué parce que ma mère est quelqu'un de très différent de moi, très matérialiste, très dans les normes justement de la société. Donc il fallait être marié. Donc j'avais 30 ans à cette époque-là quand je largue tout. Donc elle me dit, mais quand est-ce que tu vas faire des enfants et comment tu vas gagner ta vie? Donc du coup, ça a été dur parce que j'ai pas eu son soutien, j'ai dû la persuader. Et puis après, en même temps, quand j'ai une certitude, bah, peu importe ce qu'on me dit, donc j'avais déjà ce côté très borné, très têtu, et ça, ça me suit depuis que je suis toute petite. Donc peu importe que j'ai le soutien ou pas de mes proches. Alors mon frère, lui, j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi, lui... très très confiant, il me dit, écoute, je sais que tu as toujours su ce que tu voulais faire, ce que tu devais faire, donc je te fais confiance. Mais après, voilà, je me suis vraiment recentrée sur moi, j'ai vraiment pris conscience, ma vie m'appartient, elle appartient à personne d'autre que moi, donc c'est à moi de la mener, et c'est à moi de la mener selon ce que je veux, ce que je désire.
Je voudrais que tu reviennes sur ce moment où tu choisis tes premiers voyages. J'essaye de dépeindre la scène, tu as une carte devant toi, et un verre de vin. Ensuite, c'est à toi de nous expliquer ce qui se passe.
Ouais, alors c'est à l'époque où j'ai décidé de voyager, de partir pour ma première grande aventure. Donc j'ai plusieurs mois devant moi. Je me donne en fait à peu près 5 mois. Et la question, c'est où est-ce que je vais? En fait, je me dis, j'ai envie de grands espaces. J'ai envie de découvrir la nature à l'état pur. J'ai pas envie de faire quelque chose de touristique, de déjà connu. J'ai envie de goûter vraiment à l'inconnu. Et donc, à cette époque, évidemment, j'étais encore dans le deuil de mon père. Donc, je me raccrochais à ce cher vin rouge, hein, qui est très cher à notre pays. Donc, j'avais ce verre de vin avec moi qui est un peu... me détendait et me permettait quelque part d'évacuer aussi mes angoisses et mes doutes. Et je me pose devant une vieille carte papier du monde que j'ai. Mon regard se pose sur la Sibérie, où là, clairement, les grands espaces, des kilomètres et des kilomètres de terre vierge, de nature à l'état pur. Et mon regard se bloque à l'extrême-orient de la Sibérie, donc tout à droite de la carte, où je vois une péninsule qui s'appelle le Kamchatka. Et là, clairement, c'est mon corps, une fois encore, qui m'a parlé, mais là, ça a été la joie. C'est-à-dire que j'ai senti dans mon corps, dans mes tripes, que je devais aller là-bas. Et là, pareil, il y a eu la certitude que je devais y aller, peu importe comment j'allais me débrouiller. Je ne parlais pas un mot de russe, je n'avais jamais mis les pieds en Russie, même pas à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais je savais que je devais y aller.
La question que je me pose, et je pourrais te la poser quasiment sur chacune de tes aventures que nous allons décliner par la suite. Pourquoi tu décides de partir seule à ce moment-là?
C'était évident. C'est là un moment où je me suis lancée dans cette quête, ce qu'on appelle la quête de soi. J'ai voulu répondre à la question « Qui suis-je ?» Et j'ai su intuitivement que j'étais la seule à pouvoir répondre à cette question. L'autre raison au fait que je voyage seule, c'est que je ne voulais pas me laisser influencer par d'autres personnes. Parce que, quelque part, bah, pendant ces 10 années de carrière, je me suis rendu compte à quel point j'étais influencée par « oui, ça fait bien de faire ça », ou une personne dit « ah oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », ou être dans le compromis par rapport à des choix. Et je ne voulais plus de compromis. Je voulais vraiment me trouver, je voulais vraiment m'écouter. Et s'écouter, en fait, bah, ça se fait seul, ça se fait pas entouré, enfin même en couple ou à 3 personnes, il fallait que je sois face à moi-même. Alors c'était dur, parce qu'il faut faire face à sa solitude et se faire face à soi. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie. Faire face à soi, c'est faire face à ce qu'on désire, mais c'est aussi faire face à ses peurs, à ses souffrances, à ses blessures. Et d'où mon choix. Donc il y a 9 ans aujourd'hui, et ça s'est toujours reproduit jusqu'à aujourd'hui, de partir seule à chaque fois pour m'écouter, pour en apprendre davantage sur moi. Et puis derrière, ça m'a permis de favoriser les rencontres, ça m'a permis de m'immerger vraiment dans des populations très isolées, de me faire accepter par elles, parce que c'est souvent ce qui se passe quand on est une femme qui voyage seule, et ben les gens nous accueillent et nous ouvrent leurs portes.
Alors, au Kamchatka, tu vas passer 6 mois. 2 séjours de 3 mois avec des éleveurs de rennes. Tu vas suivre la transhumance de ces animaux et là, tu vas faire de belles rencontres.
La plus belle rencontre que j'ai faite dans cette toute première aventure, c'est ce peuple, hein, les Tchouktches, donc un peuple de tradition chamanique, des nomades éleveurs de rennes. Et donc, il y avait on appelle ça une brigade. C'est une brigade d'éleveurs de rennes. Il y avait 9 hommes et 2 femmes. Ça n'a pas été évident au départ parce que il a fallu que je me fasse accepter, que je les persuade, que j'étais capable de les suivre. Parce que là, c'était 3 mois en autonomie totale dans la nature, donc sans radio, sans téléphone satellite, rien du tout, et sans médecin, rien du tout. Donc du coup, effectivement, il y a eu ce test au départ pour savoir si j'étais capable de les suivre. Il y avait le chef de la brigade qui s'appelait Volodia, et une des femmes donc, qui s'occupait de faire la cuisine, qui restait au camp pour... Donc on bougeait tous les jours, on changeait de camp tous les jours, qui elle s'appelait Lydia. Et ce qui est formidable là-dedans, c'est outre le fait qu'on... Alors c'était génial, c'était même vertigineux quand j'y repense. Donc on était 12, donc il y avait 9 hommes, 2 femmes, et moi j'étais la 12e, il y avait 2500 rennes.
Mais t'as pas eu peur à ce moment-là?
Non.
D'être une femme seule, une femme qui ne connaît ni la région, ni la langue, ni ses gens, tu t'es pas dit, ça peut devenir compliqué ?
Étonnamment, non. Parce que, et c'est ça qui a été très fort dans ce voyage, c'est que pour la première fois de ma vie, même si effectivement, comme tu le dis, j'étais à l'opposé de tous mes repères, j'étais toute seule avec un peuple que je ne connaissais absolument pas, quelques jours avant d'y poser les pieds, mais pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place. Les Tchouktches, ce sont des personnes qui rient énormément, qui ont cet amour de la nature, et en fait, je me suis retrouvée à travers eux, c'est-à-dire la simplicité, le goût de vivre, le goût de la joie, voilà, le respect de la nature, le respect des animaux aussi, le fait qu'ils soient de tradition chamanique, donc qu'ils vénèrent la nature, le feu, le soleil, la mer, la terre, et en fait, je me suis vraiment trouver complètement en harmonie avec eux, et je pense qu'ils l'ont senti, et du coup il y a vraiment une grande fluidité qui s'est créée dans nos relations, dans nos échanges.
Ensuite, tu changes complètement d'univers, même si finalement à vol d'oiseau c'est pas si loin que ça, tu pars en Alaska à vélo, on est en septembre 2011. Alors ce qu'il faut bien souligner, c'est que tu n'es pas une sportive de haut niveau, tu n'es pas une athlète qui a consacré toute sa vie au sport, mais là tu pars pour un immense périple, 1200 km, encore une fois, toute seule.
Cette décision de traverser à vélo, ça fait suite à une déception parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une acculturation des peuples autochtones. Donc je me suis dit, je vais faire autre chose. Et en fait, ça m'est apparu comme ça. Je me dis, tiens, je suis en Anchorage. Il y a une ville tout au bout de l'Alaska qui s'appelle Haines. 1200 km. J'avais pas du tout décidé de faire cette traversée à vélo. Donc, j'épluche les petites annonces. Je trouve un vélo qui m'avait l'air très bien d'occasion sur Internet. Je vais le chercher. J'achète des sacoches. Et là, je me débrouille et je pars toute seule à vélo à l'aube de l'hiver. Parce qu'en plus, je me suis retrouvée bloquée à un moment par la neige. Mais en fait, je me faisais confiance. Certes, je suis pas sportive de haut niveau, mais j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai un rapport au corps. Voilà, je faisais de l'alpinisme, plein de choses, des ascensions. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'ai envie de le faire, je le fais. Et c'était fabuleux, quoi. Se retrouver seule sur ces routes en plein hiver, où des fois, je croisais peut-être une ou deux voitures par jour, et les gens s'arrêtaient et me regardaient, et me disaient, mais t'es complètement folle. Et finalement, ils me donnaient à manger, ou ils allaient à la ville plus loin, ils me rapportaient du chocolat ou des légumes. Et c'était fascinant, quoi. Et encore une fois, le contact avec la nature.
Linda, il y a beaucoup de spiritualité aussi dans tous tes voyages, dès le début. Tu évoquais tout à l'heure le chamanisme, hein, cette méditation entre les êtres humains et les esprits. Est-ce que ça t'aide justement à dépasser tes limites, à avoir cette forme d'introspection indispensable pour bien vivre ces longs moments de solitude dans des zones aussi compliquées où le thermomètre descend régulièrement sous les moins 15 degrés ?
La spiritualité, oui, elle est venue... au fur et à mesure de mes voyages, et elle est devenue de plus en plus présente. Je vais explorer ces sagesses du monde, dans les coins reculés du monde. Et bien sûr, oui, ça m'aide. C'est-à-dire que derrière ça, je me suis rendu compte qu'il existait dans notre monde des outils, des techniques ancestrales millénaires qui nous permettaient, enfin qui me permettaient finalement, par exemple, de lutter contre mes angoisses et surtout de voir les choses de façon beaucoup plus claire en moi-même, d'avoir beaucoup plus de clarté en moi pour finalement bah, mieux prendre des décisions, pour mieux me connaître aussi. Quand tu parlais voilà, le fait de partir à vélo, seul, à moins 15, ou après, par exemple, je suis revenue en Sibérie, vivre avec les tchouktchou, il faisait moins 50 degrés. Je me suis rendu compte à quel point le mal-être que je pouvais ressentir auparavant, il provenait avant tout du fait que j'étais déconnectée de moi-même, et à quel point en me reconnectant à moi, donc par différentes techniques spirituelles, donc j'ai découvert ensuite la méditation chez les bouddhistes, ou le chamanisme, en fait c'est l'art de considérer tout comme vivant, que ce soit la nature ou les êtres humains ou les animaux, et bien à quel point tout ce savoir me permettait d'être beaucoup plus en harmonie avec ce qui m'entoure et avec moi-même, et à partir de là, de traverser n'importe quelle épreuve, mais que ce soit à travers les voyages, dans les voyages, mais y compris dans la vie quotidienne. Et c'est ça qui est formidable.
Linda, il y a une expérience qui m'intrigue plus que les autres. Cette année passée aux Zanskars avec des nonnes bouddhistes à 4500 mètres d'altitude. Alors d'abord, c'est où le Zanskar ?
Le Zanskar, c'est au nord de l'Inde, c'est dans l'Himalaya, donc on est vraiment, comme tu le dis, à 4000 mètres d'altitude avec des sommets autour qui culminent à 6 voire 7000 mètres. C'est une vallée perdue. Alors à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, c'est très compliqué d'y accéder. En hiver, il fallait longer une rivière gelée pendant plusieurs jours pour y accéder. Et en été, en fait, c'est 3 jours de transport un peu chaotique pour aller dans cette vallée. Et c'est là où effectivement j'ai décidé de vivre avec des nonnes bouddhistes. Et c'est là où j'ai découvert le bouddhisme et la méditation.
Et alors, quel a été l'accueil de ces nonnes bouddhistes ? Parce que je pense que ce n'est pas tous les jours qu'elles reçoivent la visite d'une jeune Française en mal d'aventure et de voyage.
Alors, ça a été formidable parce que s'il y a un mot que je pourrais attribuer aux nonnes bouddhistes, c'est la joie. C'est-à-dire que quand je me suis pointée, donc à un moment, en plus à 4000 mètres d'altitude, ça faisait 3 jours que j'avais atterri là, donc mal au crâne, essoufflée, donc j'arrive à cette nonnerie qui est perchée à flanc de montagne, complètement isolée, je frappe à la porte. Et là, en fait, on m'avait dit que t'es prêt à être volontaire pour leur donner des cours d'anglais. Donc je frappe à la porte en bois et je dis « I'm a volunteer teacher ». Et là, la nonne, le grand sourire, elle dit « Oh, welcome, welcome !» Et tout de suite, elles m'ont accueillie, tout de suite, elles m'ont acceptée parmi elles. Et voilà, j'étais complètement intégrée dans cette communauté. Et vraiment, je n'ai pas senti de frontières malgré les difficultés pour communiquer. Parce qu'elle parle le zanskari, qui est un dialecte du tibétain. Donc au départ, je n'en parlais pas un mot. Et bien en fait, ça s'est fait comme avec les tchouktch, de façon très fluide. Mais en plus, ce que je dirais, ce qu'il y avait de différent avec les nonnes, c'est une communauté de femmes. Donc c'est des rires, des sourires, la joie, le rapport à l'instant présent. On en parle beaucoup dans le bouddhisme, mais pour elles, c'est même pas une philosophie ou une religion, c'est juste leur mode de vie. Elles sont vraiment ancrées dans le présent, et peu importe ce qui va arriver demain, peu importe ce qui s'est passé hier, on vit à l'instant présent. Et ça a été une très très grande richesse qui m'a beaucoup apporté pour le futur.
Mon invitée aujourd'hui dans Vie d'aventure, c'est Linda Bortoletto, une voyageuse, une marcheuse, une rêveuse également. Quand on t'écoute, on a l'impression que tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais j'imagine que quand t'es de temps en temps au Kamchatka, en Alaska ou avec ces nonnes bouddhistes, il y a des périodes de doute, il y a des instants où le relationnel classique d'une occidentale comme toi doit manquer.
En fait, j'ai jamais de doute en voyage parce que je sais que je suis exactement là où je dois être. Une de mes qualités qui me permet de faire ce que je fais, ce côté, cette volonté d'explorer, c'est la curiosité. Donc même s'il y a des fois, effectivement, je suis un peu frustrée parce que je peux pas communiquer comme je veux avec les gens, ou des fois il y a cette sensation aussi quand j'arrive dans une famille, je me rends compte que je suis quelqu'un qui reste extérieur à tout ça, je reste une voyageuse. Des fois, effectivement, il y a cette sensation de solitude, je pense à mes proches, je me demande si tout va bien, parce qu'en général, j'ai très peu de moyens de communication. Mais il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute parce que j'aime ça, parce que j'aime apprendre, j'aime découvrir. Et au pire, si j'ai un doute, je vais marcher dans la montagne et puis j'en reviens renforcée et apaisée.
Tu parles de la quête de la lenteur et de l'authenticité. Ta vie manquait d'authenticité auparavant ?
Ouais, je m'en suis rendu compte en voyageant que l'une des choses qui finalement ne me correspondait pas dans le système dans lequel j'évoluais, c'était le fait d'avoir une étiquette qui me collait à la peau, une étiquette sociale. Donc j'étais Linda Bortoletto, officier de gendarmerie, enfin capitaine de gendarmerie, détachée au ministère des Finances. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ces étiquettes, elles me forçaient à jouer un rôle finalement par rapport à ce que les autres attendaient de moi en fait. Et à quel point ça m'empêchait d'être moi. Et l'authenticité, c'est comme ça que j'ai défini, c'est être soi. Et pour pouvoir être soi, faut faire l'effort de se faire face, de se connaître. Et ça, je l'ai découvert à travers le voyage, parce que quand je voyage, quand je rencontre des gens, donc j'arrive sans étiquette, c'est-à-dire que eux me voient tel que je suis. J'ai pas besoin de me définir avec une fonction. Je le dis juste, ouais, j'ai envie de découvrir votre culture, j'ai envie de partager, j'ai envie d'apprendre. Et je me fonds complètement dans le paysage, dans leur culture, pour recevoir ce qu'ils peuvent me donner. C'est de cette façon-là que j'arrive à me trouver et j'arrive à toucher à ce que j'appelle l'authenticité. C'est-à-dire que je ne me mens plus.
Comment mettre en avant sa personnalité, ses bons côtés, mais aussi les moins bons, quand justement on est dans l'attente d'une acceptation? Est-ce qu'on n'est pas obligé de lisser un peu sa personnalité ?
Je lisse pas ma personnalité, mais je me rends compte que comme je suis vraiment ouverte à l'autre, naturellement, en fait, je me fonds. C'est-à-dire que je ne vais pas imposer quelque chose de moi, que ce soit ma façon de voir les choses, ma culture. Tu parlais de cette quête de lenteur et d'authenticité, mais aussi cette quête d'innocence. C'est-à-dire que je redeviens comme un enfant. Et donc, je prends ce qui est. Et puis, des fois, évidemment, il y a des choses qui, culturellement, comme c'est complètement différent, qui peuvent me heurter, mais je ne suis pas là pour juger. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est que la richesse de mes voyages, elle ne se révèle parce que je décide de ne pas juger, mais je décide de recevoir. Après, ça me plaît ou ça ne me plaît pas, mais c'est pas le problème de l'autre, c'est mon problème et c'est à moi de faire un travail sur moi. Et donc, c'est pas vraiment que je me lisse, c'est que je suis dans une acceptation totale.
J'ai l'impression qu'il y a aussi un élément majeur de ta vie passée qui n'existe plus et que tu es tellement heureuse de quitter tel un fardeau, c'est l'autorité. Je me trompe ?
Non, ça c'est vrai, c'est l'autorité, le poids de la hiérarchie qui est extrêmement lourd hein, quand on est dans un cadre militaire ou même fonctionnaire. Hein. Ce désir de liberté était tellement fort, le désir de m'exprimer tel que j'étais, que ça ne pouvait pas côtoyer l'autorité. C'est-à-dire que j'aime faire les choses telles que je les conçois, j'aime m'exprimer tel que je suis. Et après, ce qui ne veut pas dire, il y a une autorité qui est nécessaire, mais et notamment, je m'en suis rendu compte en vivant avec les Tchouktches. On vivait en brigade, il y a quand même un chef de brigade qui, lui, a l'expérience, c'est le plus ancien. Et donc là, effectivement, il faut respecter, et je respectais ce qu'il disait quand il me disait « va pas là », j'y allais pas, parce qu'eux savent. Aujourd'hui, je comprends qu'il puisse y avoir une autorité, mais à un moment donné, j'accepte les limites, mais il faut savoir les dépasser. Donc je les dépasse quand il faut les dépasser, mais je les respecte quand je comprends qu'il y a une légitimité par rapport à ce qui m'est dit.
Quand je t'écoute, certes tu pars seul, mais finalement tu es rarement seul, parce que tu es vraiment tel un buvard, perméable à la rencontre. Tu vas vers les autres, tu as besoin d'eux, tu te nourris d'eux, de leurs expériences, de leurs traditions, de leur façon de vivre.
Et c'est ça en fait qui est formidable quand on parle effectivement du voyage en solitaire. En fait, effectivement, moi je me suis très rapidement rendu compte que en étant seule, je favorisais la rencontre, l'acceptation et l'accueil des autres, la curiosité. En plus, une femme seule attire davantage la curiosité qu'un homme seul, parce que la première question qu'on va me poser, c'est pourquoi tu voyages seule, qu'est-ce que tu fais, t'as pas peur, ou alors t'es courageuse. Et c'est ça qui est génial. Après, évidemment, il y a eu ces phases en immersion, quand j'ai vécu avec les Tchouktches ou avec les non-bouddhistes, mais quand j'ai traversé l'Alaska à vélo, je rencontrais une personne toutes les semaines, ou même j'ai traversé des parties de l'Himalaya à pied, où je rencontrais personne du tout. J'ai traversé une partie de la cordillère des Andes à pied, où là, c'est pareil, je rencontrais des gens une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Et c'est là où j'ai appris à apprivoiser la solitude en me disant que cette solitude, c'était une richesse qui me permettait de mieux me connaître, de mieux intégrer les enseignements de la vie, de ce qu'on avait pu me dire. Et puis derrière, ces périodes d'échange, de rencontres, d'apprentissage, où je m'enrichis comme jamais. C'est-à-dire que pour moi, la plus belle école qui soit, c'est l'école du voyage.
Est-ce que c'est une école qui favorise l'égoïsme ?
Alors effectivement, c'est une bonne question parce qu'on peut se dire, et on me l'a déjà dit d'ailleurs, que ma démarche était une démarche égoïste. Parce que déjà, j'ai tout quitté pour pouvoir faire ça, je voyage seule. Or, c'est totalement l'opposé parce que les qualités que ça a développées en moi, par rapport à mon parcours, hein, par rapport à cette quête aussi de spiritualité, de sagesse du monde, eh bien, je m'en retrouve beaucoup plus tolérante. En étant confrontée à la diversité, à la différence, je me suis rendu compte à quel point tout le monde était différent, mais à quel point tout le monde était unique. Et je me souviens, pour la petite anecdote, quand j'étais avec les Tchouktches, une des premières questions que je leur pose, c'était « Est-ce que vous croyez en l'amour ?» Alors, je ne sais pas pourquoi je pose cette question. Et là, ils me regardent et ils me disent « Mais évidemment, nous aussi, on tombe amoureux et on a des déceptions amoureuses. » Et là, je me suis dit « Mais elle est débile, ta question. L'amour n'est pas réservé à une catégorie de population. » Et je me suis rendu compte à quel point il y avait des choses universelles comme l'amour, le rire, cette envie de partager, de curiosité. Alors, il y a aussi autre chose universelle qui est le commérage. Partout où je suis allée, y compris dans les régions les plus isolées, les gens adorent le commérage, aller dire ce que fait l'un ou ce que fait pas l'autre. Et du coup, ça a développé en moi ce regard très ouvert sur l'autre. Et du coup, ça a développé ma tolérance et mon ouverture. C'est pas égoïste, au contraire. Et ce qui aussi me pousse aujourd'hui à partager tout ce que je fais, parce que j'ai envie que les gens voient le monde autrement, pour créer plus de tolérance et donc plus de respect de l'autre. Mais derrière, c'est le respect de soi.
Linda Bortoletto est mon invitée aujourd'hui. Elle marche, elle parcourt le monde, seule, à la rencontre des autres. J'ai une question un peu indiscrète à te poser. Tu parlais de l'amour. Quand on voyage aussi longtemps, dans des endroits aussi différents de la France, est-ce qu'on peut tomber amoureuse ? Est-ce qu'on a envie de rencontrer l'amour ?
J'ai rencontré l'amour, j'ai un partenaire. En l'occurrence, je ne l'ai pas rencontré en voyage, je l'ai rencontré, enfin, c'était quand même un voyage, parce qu'à un moment, je me suis expatriée en Pologne, et donc c'est là où on s'est rencontrés. Et donc, on vit ensemble, alors, quand je suis là, évidemment, depuis 7 ans. Je ne cherchais pas, en fait. Et je pense que d'ailleurs, les choses arrivent quand on ne les cherche pas. Elles arrivent justement quand on laisse les possibilités, les portes ouvertes. Et à un moment, ça m'est tombé dessus. Ce qui est génial, justement, parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on fait pour concilier. Enfin, depuis 9 ans, la moitié de l'année, à environ 6 mois par an, je suis en voyage. Et en fait, c'est quelqu'un qui respecte profondément ce que je suis et qui a compris que, de toute façon, je ne serais pas la personne que je suis si j'arrêtais de voyager. Donc, du coup, il y a un grand respect. Même pour ce que je suis, non pas pour ce que je représente ou ce que je fais, et l'amour, en fait, c'est ça.
Alors, parmi tes voyages, on n'est pas obligé d'aller très loin, et il y a une des expériences qui a attiré mon attention. C'est ce fameux Tour de France de l'audace, où tu as couru l'équivalent de 35 marathons en 2 mois. Rien que la thématique interpelle. Le Tour de France de l'audace. Oser.
Ça a été un constat. Quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que finalement, les questions que je me posais et ce changement de vie radical que j'avais fait, Finalement, il y a plein de personnes qui en rêvaient, mais qui n'osaient pas franchir le pas. Et je me suis rendu compte que les peurs que j'ai eues, les doutes que j'ai eus, finalement, plein d'autres personnes les avaient, et que, comme moi, j'avais déjà avancé sur ce chemin, je m'étais dit, bah, je vais pouvoir peut-être les inspirer. Et donc, d'où ce tour de France de l'audace, parce que je me suis dit, bah, c'est bien de dire aux gens, osons, arrêtons de réfléchir, il faut agir, mais je me suis dit, je vais allier le geste à la parole, et je vais faire un projet complètement fou. Donc à l'époque, en fait, je courais énormément et je faisais des marathons, donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais aller rencontrer les gens sur le terrain en France et je vais rejoindre différentes villes en courant, d'où ces 35 marathons en 2 mois où j'alternais la course et les conférences, les rencontres autour de mes livres, pour inspirer les gens, pour leur dire, quel que soit notre rêve, c'est possible à partir du moment où on se donne les moyens de le réaliser. Et voilà le message que j'ai voulu diffuser à travers ce Tour de France en courant, ce Tour de France de l'audace.
En 2017, c'était entre le 12 mai et le 11 juillet. Moi, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que quoi que tu aies envie de faire, quand tu décides de partir, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'emmener vers l'échec.
Alors, l'échec, je le connais encore. Le plus dur que j'ai vécu, c'était ce premier changement de vie, là où je largue tout pour ensuite commencer à voyager. Et après, je me suis rendu compte que, oui, tout est possible à partir du moment où je me donne les moyens de le faire, à partir du moment où je ressens le désir, où c'est vraiment un désir qui vient du fond de mes tripes. Et je me dis, je sais que je dois faire ça, je sais que c'est mon chemin, je sais que c'est, entre guillemets, mon destin. J'y vais et je me pose plus de questions parce que derrière, les moyens, ils vont arriver. Et il y a une autre qualité que j'ai apprise, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la course à pied, c'est la persévérance. C'est-à-dire que, bien sûr, je connais encore des échecs, des doutes. Bien sûr, par exemple, quand je vais chercher du mécénat, du sponsoring, bon, ouais, y a des gens qui ne comprennent pas ce que je fais. Et j'ai eu des coups durs dans ma vie personnelle, que j'ai dû affronter de nouveau. Mais je sais qu'il existe un chemin pour se relever. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'échec, parce qu'à chaque fois, en fait, j'en suis ressortie plus forte, j'en suis ressortie avec un enseignement, à chaque fois, j'ai appris. Et c'est pour ça que la vie, elle est formidable, et c'est pour ça que je n'hésite pas à me lancer. C'est pas grave, même si on se plante, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend.
Tu as chevillé au corps cet optimisme que l'on ressent même dans ta voix, dans l'énergie de ton discours. Et je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à un autre de tes voyages, parce qu'il est symbolique, que tu as intitulé, c'est d'ailleurs le titre du livre que tu as écrit, « Le chemin des anges ». Israël à pied, en 2 mois, 1100 kilomètres de la frontière du Liban à la mer Rouge. Quel était le symbole de ce voyage au moment où tu l'organises ?
Alors ça, c'est un voyage très particulier parce que j'ai jamais imaginé poser les pieds dans ce pays, sur cette terre. Et donc depuis que j'ai vécu avec les nonnes bouddhistes, je fais beaucoup de méditation. Et il y a des fois, quand on médite, on reçoit des visions ou des évidences, des messages. Et là, en fait, j'ai une vision qui me désigne Israël. Là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? C'est tout petit, alors que moi, je suis une grande amoureuse des immensités, de la nature à l'état pur. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me fais confiance. De toute façon, c'est là et je sens qu'il va y avoir quelque chose de spécial. Donc, je pars. Je pars en me disant, il y a énormément de préjugés. C'est une terre qui, depuis des millénaires, est en conflit. Et je me dis, je vais oublier tout ça, je vais oublier ces préjugés, je ne vais pas écouter ce qu'on me dit, et je vais appréhender le pays à travers la nature. D'où le choix de marcher pendant 2 mois, donc le long d'un chemin qui traverse Israël du nord au sud. Je vais aller ressentir l'énergie à travers la terre, à travers la nature, à travers les arbres, les montagnes, la mer, le désert. Et c'est comme ça que je pars dans ce pays.
Est-ce que le fait d'avoir une maman musulmane, ça participe aussi à cette vision que tu as eue d'aller dans ce pays, Israël?
À partir du moment où j'ai posé les pieds là-bas, donc je commence à marcher, et malgré tout, même si j'essaye de taire mon mental, il y a la question pourquoi, mais qu'est-ce que je fous là, où je vois un pays d'une extrême diversité, où je passe de villages juifs à des villages catholiques, à des villages musulmans, où je rencontre tout un tas de personnes de croyances différentes, des croyants, des non-croyants, une extrême diversité, et forcément ça me renvoie à ma propre diversité, et notamment à ces questions de tradition spirituelle et religieuse. Je me rends compte à quel point j'étais pas au clair par rapport à ma maman, donc effectivement qui est musulmane, et j'ai grandi dans un milieu catholique, et après je me suis intéressée au chamanisme, au bouddhisme. Donc en fait, je me suis rendu compte à quel point moi-même j'étais diverse, et à quel point finalement cette diversité qui me dérangeait, parce qu'à un moment je me suis dit, mais quelles sont mes racines? À quelle terre j'appartiens? Je suis née en France, mais multiculturelle, je m'intéresse à toutes ces traditions spirituelles du monde, qui suis-je? Et en fait, la réponse, je l'ai à la fin du chemin, c'est que je me suis rendu compte que la diversité, c'était pas un poids, mais c'était une richesse, et que finalement, si j'avais cette diversité en moi, elle pouvait coexister, il faut juste savoir l'accepter, la diversité qu'il y a en moi et la diversité qu'il y a à l'extérieur du monde.
Tu dis, et c'est d'ailleurs assez joli, à l'issue de ce voyage, j'ai réussi à réconcilier la guerrière, la femme et la mystique qui sont en moi.
C'est tout mon parcours, en fait, dans cette phrase. J'ai cette fibre très guerrière, très fonceuse, donc cette énergie très masculine, en fait, qui fait que je fonce, quoi. Je suis une fonceuse. Et en même temps, bah, au fil de mes voyages, donc il y a ce côté mystique qui a émergé en m'immergeant dans ces sagesses du monde. Ce goût de l'invisible, donc l'univers, après on l'appelle comme on veut, le fait qu'il y ait des anges, qu'il y ait une puissance suprême, et je sens tout ça en moi. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je vais trouver un équilibre dans la vie? Qu'est-ce qui fait que je peux concilier cette existence terrestre avec ce goût pour ces questions spirituelles, ces questions de l'au-delà? Et en fait, une fois encore, je me suis rendu compte que c'était pas une dualité, c'était un équilibre à trouver. C'est que j'aime le réel, mais j'aime aussi l'irréel. J'aime le visible, mais j'aime aussi l'invisible. Et tout ça que se réconcilie en moi, et je me rends compte de tout ça en Israël.
Linda, est-ce que certains de tes amis, de tes proches, qui ont une vie beaucoup plus normée en France, ne te disent pas, certaines fois, ou ne pensent pas très fort, que tu es perché?
Ça, on me le disait déjà quand j'étais ado. J'ai deux meilleurs amis, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. Et en fait, quand j'ai changé de vie et quand j'ai commencé à faire ce que j'ai fait, donc les voyages, les sagesses, et puis ce côté invisible, les anges, les guides, elles m'ont dit quelque chose de très beau. Elles me disent, mais finalement, en fait, on te retrouve comme tu as toujours été. En fait, tu as toujours été perché, quoi. Elles me l'ont dit très franchement. Mais c'est pas grave parce qu'elles m'aiment comme je suis, mes proches aussi, donc ils savent que je suis comme ça, que j'ai ce côté mystique. Et je dirais que s'ils ne l'acceptent pas, ben c'est qu'ils ne m'aiment pas. Donc voilà, c'est comme ça, il faut accepter ça et la relation se termine.
Linda, si on devait comparer la vie militaire et ta vie d'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire qu'en matière de bonheur et de contrôle de soi, tu mérites d'être colonel, voire général?
Je ne sais pas, je dirais que c'est aux autres de le juger, mais... En tout cas, je suis sur le chemin. J'arrive à avoir des très hauts, même si je connais encore des très bas par rapport à certaines épreuves de la vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'accepte. Et je pense que l'acceptation de ce qui est, le meilleur comme le pire, ça, c'est un des plus gros enseignements que je retire de mes années de voyage.
Pourrais-tu limiter un petit peu ton champ d'action en devenant maman, par exemple ?
Ça, c'est pareil, c'est une grande question, surtout que j'ai 39 ans, donc on va dire avec l'âge, cette question elle est devenue très présente. J'ai jamais eu le désir d'avoir d'enfant, mais ça, c'est pareil, depuis extrêmement tôt, quand j'étais adolescente, déjà, je disais à mes meilleurs amis, je dis, mais moi, franchement, si j'ai pas d'enfant, si je ne peux pas en avoir, ça ne me dérange pas. Et elles étaient toujours, je les heurtais beaucoup en disant ça. Aujourd'hui, je ne souffre pas. Non pas de ne pas avoir d'enfant, mais de ne pas avoir le désir. Parce que je n'ai toujours pas le désir d'avoir un enfant. Et ça ne veut pas dire que je rejette l'idée. Mais à un moment, je me suis beaucoup posé les questions, justement, parce que j'ai 39 ans, et je me suis dit, finalement, les questions que tu te poses, est-ce que c'est plus ton rationnel, c'est ta raison, voilà, c'est le regard de la société qui est très fort à ce sujet par rapport aux femmes. Mais à un moment, je me suis dit, pourquoi je me forcerais à avoir un enfant qui est quand même une des plus grosses responsabilités, voire la plus grande responsabilité qu'on puisse avoir. Ce désir, je ne l'ai pas.
Quels sont tes prochains objectifs, tes projets? Où la vie va t'amener?
La vie m'amène toujours dans des endroits insoupçonnés. En gros, là, de façon très immédiate, je pars ce vendredi en Équateur. Alors là, c'est différent. C'est pas vraiment un voyage seul, parce que je veux approfondir ma connaissance du chamanisme et d'une philosophie indienne qu'on appelle le tantrisme. Et donc j'ai trouvé un centre qui concilie les deux, une sorte de retraite de formation en tantrisme et en chamanisme. Mais en même temps, je vais en profiter pour découvrir la nature de l'Équateur. Et sinon, pour le reste, après ça, c'est l'aventure de l'écriture hein, qui occupe une part très importante aussi dans ma vie, où j'ai mon prochain livre qui sort début mars, et je dirais que bah, j'ai envie d'être présente aussi pour mon livre. Pour l'instant, j'ai pas d'autres aventures de voyage outre ce que je viens de dire.
Ce sera ma dernière question, c'est plutôt une citation très belle, je trouve. Tu dis « Écrire, c'est hurler en silence ».
Pour moi, l'écriture, c'est un voyage en soi, c'est une aventure en soi, c'est une réelle exploration. Et c'est se mettre à nu. Et c'est pour ça que je dis qu'écrire, c'est hurler en silence. C'est une façon d'hurler tout ce que l'on est à travers les mots et les poser sur une page blanche.
J'aimerais, Linda, avoir ta zénitude, avoir ce recul sur la vie. Et je pense que tous, en t'écoutant, on se dit qu'à un moment, on aurait pu aussi tout lâcher, tout envoyer bouler pour embrasser une toute autre destinée. Certains ont le courage de le faire, comme toi, d'autres moins. Ça ne veut pas dire qu'on est moins heureux, mais ça veut dire qu'il faut une sacrée force de caractère pour faire ce que tu as fait. Et on sent en tout cas que tu es parfaitement d'accord avec toi-même. Merci infiniment d'être venu témoigner dans Vie d'aventure.
Merci beaucoup, Denis.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors, si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.